Le texte sur lequel nous allons débuter notre réflexion ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand la période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, et le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. Lors de ces cultes mensuels que nous avons et que nous appelons culte découverte, comme aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de lire et de commenter des rencontres de Jésus avec des personnes, toutes sortes de personnes que Jésus vient rencontrer dans leur quotidien ou qui viennent le rencontrer, et nous nous attardons sur le soin que Jésus prend de ces personnes, sur l'enseignement qu'il leur dispense et qui résonne jusque dans nos vies personnelles. Vous en conviendrez, la personne que Jésus rencontre aujourd'hui n'entre pas tout à fait dans ce cadre, elle est un peu spéciale. Et s'il s'agit d'une personne, il ne s'agit pas d'un homme, mais du diable lui-même. Et donc, l'identification de cette personne à nous-mêmes et le parallèle avec nos vies est sans objet. Et notre réflexion de ce matin portera donc sur autre chose. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous proposer une petite image. Et là, c'est vous qui allez travailler. Vous regardez cette image, et puis, allez, dans 30 secondes, vous me dites ce qu'elle vous inspire. Allons-y, c'est parti. C'est pas loin d'ici, ok? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image? Pardon? La nature, ok? Un village paisible. Une église isolée, ok? La montagne, c'est ça? Sommet de la montagne. Si on va sur le domaine des sentiments, certaines tranquillités, d'accord, une église détachée du village, ouais. On en reste là ? Encore une autre idée ? Oui ? Pardon, je n'ai pas compris. L'envie de s'élever sur la petite montagne. Très bien. Donc, vous le voyez, cette image est quand même assez neutre. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Inspire déjà une multitude de choses très variées selon les personnes, leur caractère, leurs références qu'elles peuvent avoir ou non avec le sujet. Leur expérience, peut-être aussi en rapport avec le sujet. Mais revenons à notre texte. Nous voyons Jésus aux prises avec le diable, plus qu'un adversaire, un véritable ennemi, l'ennemi même de nos âmes, selon la Bible. Ce combat est plus qu'un simple débat d'idées, puisque nous le rappelons, Jésus a jeûné 40 jours, il est épuisé, il a faim. Et l'objectif de l'adversaire ne nous est pas caché. Il est d'utiliser la forte tension que Jésus éprouve dans son corps pour le tenter et le détourner de sa mission. Dans ce combat, la référence aux Écritures occupe une place centrale. Vous avez tous les versets en rouge qui sont tirés, tous les passages qui sont en rouge sont des versets tirés de l'Ancien Testament. Jésus objecte au tentateur des réponses qui sont tirées de la partie de la Bible déjà écrite de son époque, que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et Jésus semble puiser dans ces textes les arguments et la force pour résister au diable. Et fait marquant également, le diable lui-même en vient à utiliser des paroles de la Bible pour s'opposer à Jésus. Et donc la Bible est au cœur de notre passage et se présente, au moins pour ces deux-là, comme une référence qui fait autorité, pour Jésus comme un point d'appui ferme et intangible, pour résister à un adversaire qui, lui, l'utilise comme prétexte pour semer la confusion. Et donc ce matin, j'ai choisi de traiter le sujet de l'inspiration du texte biblique. Les chrétiens disent que la Bible est inspirée de Dieu, par Dieu. Peu de temps après, après le ministère de Jésus sur la terre, Paul, un des premiers chrétiens, est devenu apôtre de Jésus et il a écrit une multitude de textes qui ont contribué à fonder l'Église et dans lesquels il cite abondamment l'Ancien Testament dont il était féru. Et voici ce qu'il dit à un de ses élèves. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous lisons ça dans la deuxième épître à Timothée, Timothée, un élève de Paul. Notre texte de ce matin est la démonstration par Jésus lui-même de cette déclaration. L'Écriture est utile. Utile pour corriger. Comme nous le voyons ici, en réfutant une interprétation tendancieuse, celle que le diable lui propose, visant à le détourner de sa mission. Pour ce qui est d'enseigner, convaincre, instruire dans la justice, ce n'est évidemment pas très utile de le faire à l'égard de Satan qui a choisi délibérément et irrémédiablement de s'opposer à Dieu, mais c'est bien ce que Jésus va faire, nous le voyons dans les évangiles, au cours de toutes les rencontres qu'il a avec des hommes et des femmes de son temps, et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, et c'est aussi ce que nous voulons faire ce matin en nous appuyant sur la Bible. Mais encore faut-il savoir en quoi la Bible est inspirée par Dieu, en quoi consiste le processus d'inspiration. Et c'est là que l'image que nous avons regardée et que vous avez commentée nous vient en aide. Plusieurs d'entre nous ont exprimé ce que leur inspirait cette image. L'image était la même pour tout le monde, mais elle n'a pas inspiré les mêmes choses à tout le monde. Et si vous rassemblez les expressions de chacun, vous pouvez raisonnablement penser être en mesure de reconstituer assez précisément ce que représentait cette image, même si vous ne l'avez jamais vue. Et plus vous avez d'expressions inspirées de cette image, et plus vous vous imprégnez de ces expressions, et plus vous pouvez espérer que la représentation que vous vous en ferez sera fidèle à l'original. De même, la Bible rassemble l'expression d'un certain nombre de personnes qui ont vu, entendu, vécu, expérimenté la présence de Dieu, l'action de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la grâce de Dieu, que sais-je encore. Mais s'agissant de Dieu, le sujet est infiniment plus vaste qu'une simple image projetée sur un écran. Et quand nous considérons Dieu dans son infini, nous comprenons aisément qu'il nous est difficile d'appréhender toute la richesse de son être. Même si la Bible rassemble l'expression de nombreuses personnes qui en ont contemplé une partie, cela n'est pas suffisant pour nous le faire connaître tel que nous le découvrons dans la lecture de ces pages. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus est celui qui nous l'a fait connaître. Jésus était le Fils de Dieu, Dieu devenu homme. Il était la parole de Dieu devenu homme. Tout ce que je dis là, c'est un homme nommé Jean qui l'a écrit. Il a passé 3 ans de sa vie, jour et nuit, en compagnie de Jésus. Ce qui l'a marqué, lui, c'est combien Jésus l'aimait. Il a été tellement réceptif à l'amour de Jésus qu'il en a parlé sans arrêt et encouragé partout où il passait les croyants à s'aimer les uns les autres comme lui-même s'est senti aimé de Jésus. Mais Jean nous dit aussi que Jésus était la parole de Dieu devenu homme. Ce n'est donc pas à Jésus qu'on pouvait en apprendre sur les Écritures, et le diable a constaté à ses dépens qui, ici, essuie un échec magistral dans son entreprise de tentation, même face à un Jésus seul, épuisé et affamé après 40 jours de jeûne dans le désert. C'est donc auprès de Jésus que nous pouvons en apprendre le plus sur Dieu, son action, son plan pour les hommes et même pour notre vie personnelle. Si vous n'avez jamais ouvert une Bible, ou si ça remonte à très longtemps, je vous suggère de le faire en lisant les 4 évangiles, qui sont ces textes qui se situent au tout début du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible qui a été écrite après le ministère de Jésus sur la terre. 4 récits qui vous mettront en présence de Jésus. Parmi les auteurs de ces récits, vous avez Jean, celui dont nous venons de parler. Il nous invite à croire en Jésus, Fils de Dieu, afin qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle en son nom. Vous avez aussi Matthieu, un juif d'origine qui a également accompagné Jésus durant 3 ans et qui était très attaché à faire le lien entre l'Ancien Testament et le royaume à venir dont Jésus sera le roi. Vous avez également Marc, qui n'a pas connu Jésus, mais fut un proche d'un apôtre de Jésus, l'apôtre Pierre. Récit très court, mais très vivant, et porté par l'action de Jésus et son service. Et enfin, vous avez Luc, compagnon de Paul, l'apôtre Paul, qui est médecin, pour une narration détaillée et précise qui souligne plus particulièrement l'humanité de Jésus et sa compassion pour les malades, les affligés et les victimes de l'injustice. Et rien qu'avec ces 4 récits, les 4 évangiles, nous nous approchons très près de Jésus, Fils de Dieu, envoyé par son Père pour sauver tous les hommes. Mais la Bible, c'est au total 66 livres. On a l'impression que c'est un livre. Non, c'est 66 livres. Une 40aine d'auteurs sur une période d'écriture d'un peu plus de 1500 ans. Alors on peut s'inquiéter, et à juste titre, de toute cette diversité, voire de cette disparité. Un fil conducteur va-t-il pouvoir se dégager? Quelle fiabilité si chacun y va de sa petite touche personnelle? Quand on voit ce que 2 peintres peuvent retranscrire de différent d'un paysage, d'un même paysage, ou ce qui ressort de la plume d'un poète comparé à celle d'un journaliste pour un même événement, il y a de quoi entretenir de sérieux doutes, et d'autant que le sujet, Dieu, sa révélation, est infiniment plus riche que la petite image que nous avons eue sous les yeux. Nous sortons d'une élection présidentielle, et regardez la diversité de constats qui ont été faits sur notre pays, et sans parler des programmes très différents qui sont pourtant tous censés lui faire le plus grand bien. 40 auteurs qui nous parlent de Dieu sur 1500 ans et qui, pour la plupart, ne se sont pas concertés, je vous laisse imaginer le fourre-tout auquel ça peut aboutir. Non, donc l'inspiration de la Bible, c'est plus que le rassemblement de récits qui tendraient vers l'exhaustivité. Si ce n'était que cela, il y aurait fort à parier que nous y trouverions des éléments tellement contradictoires qu'il serait difficile d'en dégager un fil conducteur ou une unité. Or, c'est exactement le contraire qu'on constate. Le texte biblique présente une unité qui ne peut tout simplement pas s'envisager dans un tel contexte de rédaction. C'est impensable, et par le fait, il n'existe pas d'autre cas de ce type. La Bible est un défi, et non seulement dans son mode de réaction, de rédaction, pardon, mais aussi dans sa préservation, dans son accessibilité, dans son actualité permanente. Elle a constitué de génération en génération un enseignement et un guide pour les hommes dans leur vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle, spirituelle. Ça dépasse l'entendement. Non, pour cela, il faut que la Bible soit autre chose que le rassemblement d'écrits de sages, fussent-ils les plus sages. Pierre était l'une des 12 personnes qui a accompagné jour et nuit durant les 3 ans de son ministère. Et une des expériences qui l'a le plus marqué s'est déroulée sur une montagne, devant lui et 2 autres apôtres, Jacques et Jean. L'aspect du visage de Jésus a changé, et ses vêtements sont devenus éclatants de blancheur. Et tout à coup, 2 personnages sont apparus. C'étaient 2 prophètes de l'Ancien Testament, dans lesquels Pierre reconnut Moïse et Élie, et qui s'entretenaient avec Jésus. Et comme si ça ne suffisait pas, une nuée est apparue et les a couverts. Et une voix est sortie de la nuée qui a dit à propos de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Puis Jésus se retrouva de nouveau seul avec Pierre et ses compagnons. Pierre venait d'entendre la voix de Dieu, ni plus ni moins. Et des années plus tard, Pierre a écrit 2 lettres qui sont insérées dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cette partie de la Bible qui a été rédigée après le ministère de Jésus sur la terre. Et dans l'une d'elles, il revient sur cet événement d'une manière qui nous éclaire énormément sur l'inspiration des prophéties, et des prophéties en particulier, et des Écritures en général. Et donc, je vous invite, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vous invite à tourner vos Bibles, à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître, à la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et à partir du verset 16. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Il fait référence à cet épisode. Oui, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous considérons d'autant plus certaine la parole des prophètes. Et là, nous avons le témoignage d'un événement extraordinaire. Mais ce témoignage n'est pas celui de n'importe qui. Il est celui d'une personne qui, par ailleurs, en dehors de cet épisode, a passé aussi 3 ans avec Jésus. Et c'est ce témoin qui nous privilégie, qui nous affirme que oui, à cause de ces 3 ans avec Jésus, et à cause de ce moment extraordinaire passé sur la montagne où Jésus a été transfiguré, qui a fait resplendir la majesté de Jésus, il considère d'autant plus certaine la parole des prophètes, celui qui devait venir, annoncé par les prophètes, Jésus se tenait en effet là, sous ses yeux. Puis il continue, « Vous faites bien de lui prêter attention. » Il parle donc de la parole de Dieu. « Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous voilà, après nous avoir avertis de prêter attention à la parole de Dieu, véritable lumière dans la nuit, le voici qui nous révèle le processus qui a présidé à l'inspiration des écrits de ces hommes. Ils n'ont pas parlé de leur propre initiative. Ils ont été poussés. Et Pierre utilise une expression qui signifie « porter »,« emporter », qu'on retrouve dans un texte qui parle de navires portés par le vent, entraînés par le souffle du vent. Ils ont été portés par l'Esprit de Dieu à parler de la part de Dieu. Et donc nous n'avons pas affaire à une inspiration d'origine seulement humaine, comme celle que nous avons expérimentée tout à l'heure autour de notre image et qui ne fait appel qu'à nos propres références, nos propres vécus, nos propres sentiments, et se nourrit de notre seule expérience. Le terme « inspiré » signifie littéralement « souffler », « souffler par Dieu ». C'est pourquoi nous recevons la Bible comme la parole même de Dieu. Pour autant, la Bible ne nous présente pas un schéma dans lequel les auteurs auraient écrit sous la dictée. On distingue aisément des styles différents d'un auteur à l'autre, des personnalités et des caractères différents, des sensibilités différentes, ce qui ne serait pas le cas dans l'hypothèse d'une dictée. Là donc, la Bible est donc la parole de Dieu destinée aux hommes. Et le résultat est là, un livre remarquable, malgré sa diversité d'auteurs, de temps et de lieux. Je voudrais vous lire ce que dit la confession de foi de notre Église et de notre fédération concernant les Saintes Écritures. Nous croyons que la Bible est divinement inspirée. Le Saint-Esprit a souverainement présidé à l'origine et à la formation des écrits qui la composent. Ces Saintes Écritures sont, et elles seules, la parole écrite de Dieu. Document de l'Alliance entre Dieu et son peuple, Ancien Testament, entre Dieu et la communauté de tous ceux qui acceptent le salut offert en Christ, Nouveau Testament, cette parole nous révèle la pensée de Dieu, sa volonté, son amour pour le monde. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour nous conduire à celui qui est notre salut, Jésus-Christ, et pour que nous mettions notre vie au service de Dieu. Elle est la suprême référence pour éprouver toute croyance, toute tradition et toute pratique religieuse. Elle détient son autorité de Dieu seul pour gouverner la vie du croyant et de l'Église. Vous pouvez la retrouver sur le site de notre fédération. Il nous faut ici faire un petit détour sur un sujet dont les médias s'emparent régulièrement. Je parle des manuscrits qui évoqueraient des points sur lesquels nos Bibles restent silencieuses. Et un des derniers en date est que, ça, on en a beaucoup parlé il y a quelques années, Jésus aurait été marié ou aurait entretenu une relation maritale avec Marie de Magdala. Sur fond de conspirationnisme, avec l'idée que les églises chercheraient à masquer une vérité qui pourrait les ébranler, on voit régulièrement ressortir telle ou telle mention de manuscrits qui serait authentique et apporterait des preuves formelles. Eh bien, figurez-vous que ça aussi, Dieu l'avait prévu. Il l'avait prévu dans sa parole et nous pouvons ouvrir nos Bibles dans l'épître que Paul écrit aux croyants de la Galatie. Je n'ai pas noté la référence. Ah non, mais il écrit là, c'est bon. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. On va reprendre le temps de le lire. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Paul est tellement certain de l'évangile qu'il annonce qu'il n'hésite pas à maudire quiconque en annoncerait un autre, même si c'était un ange, et même si lui-même se mettait à dérailler à ce point-là. Rappelons-nous la tentation de Jésus au désert et comment le diable s'en prend aux Écritures en les détournant de leur champ d'application. 2000 ans après, nous en sommes toujours là, mais rappelons-nous aussi que le diable n'a pas pu résister aux Écritures et qu'il s'est éloigné. Alors, il nous dit qu'il s'est éloigné dans l'attente d'un moment plus favorable et c'est clair, il reviendra. Mais c'est à nous de tenir ferme. Et en l'occurrence, de tenir ferme sur l'intégrité de la Bible en tant que parole de Dieu. Un peu plus loin, Paul explique dans quel contexte lui-même avait reçu la révélation de l'Évangile. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'Évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. On n'a pas ici le temps de lire en détail les circonstances dans lesquelles cette révélation a été faite à Paul, mais Paul, qui s'opposait alors aux disciples de Jésus et croyait en cela combattre une secte au nom de Dieu, Paul a été aveuglé par une lumière intense et a entendu une voix, la voix de Jésus, qui l'interpellait précisément sur la persécution qu'il infligeait à Jésus à travers son Église. Et comme lors de la transfiguration de Jésus, il y avait aussi des témoins qui ont entendu cette voix. Et par la suite, Paul est devenu un apôtre de Jésus, zélé, et dont les nombreux écrits inspirés nous sont précieux pour enseigner les croyants et vivre en Église. Je reviens au cas du manuscrit qui attesterait une relation maritale entre Jésus et Marie de Magdala. Il s'est finalement avéré en 2016 qu'il s'agissait d'un faux, et même d'un faux moderne, soigneusement élaboré, par un homme peu recommandable. Sa forfaiture avait réussi à berner d'éminents historiens spécialisés. Nul doute que de tels faits se reproduiront, et probablement plus durement et plus insidieusement encore. Mais nous sommes prévenus, et nous avons une ligne de conduite à tenir, pas d'autre évangile que celui qui nous a été annoncé par les apôtres, pas d'autre révélation que celle que nous tenons des prophètes. Pourquoi ne joignons-nous pas à la Bible d'autres écrits, comme l'évangile de Thomas, de Pierre, de Philippe, de l'enfance de Jésus? Ces livres n'ont pas été reconnus inspirés, on en revient toujours là. Peut-être que leurs auteurs ont fait comme nous, ont laissé vagabonder leur imagination. Plus sérieusement, bon nombre de ces écrits sont attribués faussement à des auteurs connus, et d'autres sont clairement fantaisistes ou carrément en opposition aux autres textes connus de l'Écriture. Je vois que le temps avance, je vais écouter un petit peu. Le Saint-Esprit, tout comme il a présidé à l'inspiration des textes pris individuellement, il a également présidé à l'unité globale du texte sacré, ainsi qu'à sa préservation au cours des siècles et à sa diffusion dans le monde entier. Bien entendu, c'est le texte original que nous reconnaissons comme inspiré. L'inspiration ne s'applique pas aux différentes traductions et versions dont nous disposons aujourd'hui, mais je vous rassure, tellement de théologiens très sérieux et se penchent dessus en travaillant d'arrache-pied pour nous proposer un rendu fidèle, avec cette conscience de la responsabilité qu'ils ont à notre égard devant Dieu, que nous pouvons nous reposer sans crainte sur les traductions que nous avons, sans crainte de sombrer dans l'hérésie. Pour conclure, disons que Dieu a choisi de se révéler à nous en espérant des hommes qu'il a choisis en inspirant des hommes qu'il a choisis souverainement. Ces hommes se sont attachés à retranscrire fidèlement tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, que ce soit au fond de leur cœur, dans une relation entretenue avec leur Créateur, ou par des révélations extraordinaires, des visions, des voix, on a évoqué quelques occasions comme ceci, ou encore à l'occasion de délivrance du peuple de Dieu, ou au contraire de jugement, lors de jugement de Dieu à l'égard du peuple lorsqu'il s'éloignait de lui. Jésus les a cités abondamment et a confirmé dans son enseignement la valeur éternelle des Écritures. Aujourd'hui, et comme probablement jamais auparavant, la parole de Dieu est accessible au plus grand nombre. Elle contient tout ce dont ils ont besoin pour s'approcher de Dieu et un jour le rencontrer face à face. Rien n'y manque, rien n'est en trop. Rien non plus ne peut la menacer dans sa vérité, rien ne peut la prendre en défaut, et rien de ce que Dieu voulait nous révéler n'est resté caché. Elle nourrira notre âme et élèvera notre esprit vers Dieu. Elle se tiendra près de nous et nous rapprochera de la pensée de Dieu. Elle nous fera entrevoir sa gloire et nous mobilisera à son service. Elle nous aidera, comme Jésus, à repousser la tentation et à dévoiler les projets de l'ennemi. Elle nous indiquera la voie droite, comme une lampe à nos pieds, comme une lumière sur notre sentier. Et je termine en lisant 5 versets du psaume 119. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Amen.